Alors, pour en revenir un petit peu au repas ufologique, donc vous nous disiez, donc apparemment, il y en a un pratiquement tous les mois.
Oui, tout à fait, oui. Mmh.
D'accord. Donc là, celui-ci...
Dans de nombreuses villes hein, en France, hein, comme je les avais citées tout à l'heure, donc il y a Albi, Arcachon, Bordeaux, Brest, Châlons-en-Champagne, Grenoble, Decazeville, Libourne, Limoges, Lons-le-Saunier, Metz, Rouen, Saint-Giron, Saint-Gaudens, Saint-Quintin, Paris, je crois qu'il y en a un qui est en train de s'ouvrir, Strasbourg, Toulouse, mm-hmm. etc. Et à l'étranger, donc on a des repas partenaires pour l'instant.
D'accord.
À Buenos Aires, Abidjan, etc.
Ah oui, donc ça devient international.
Oui, oui, tout à fait. Oui, ça fait déjà un moment que ça existe. Et puis, mm-hmm. et voilà, mais c'est la seule association qui est autorisée à utiliser le nom repas ufologique.
D'accord. Okay. Voilà. Alors, donc oui, là nous, on a parlé donc de votre prochain dîner, donc qui sera déjà passé pendant.
Oui.
À la diffusion d'émissions. Mm-hmm. Est-ce que vous pourriez est-ce que vous avez déjà des projets pour les futurs repas? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus
Alors, les projets, oui et non, parce que c'est toujours un petit peu décidé d'un mois sur l'autre, je dirais un petit peu à l'arrache, selon les disponibilités des intervenants, des thèmes qui peuvent remonter à la surface juste avant le mois d'après. Donc j'essaye de me mettre en contact avec des associations ufologiques latino-américaines dans des pays où le phénomène a été déclassifié officiellement vis-à-vis du grand public, pour avoir un petit peu un accès à des informations sensibles chez nous, mais qui sont montrées dans les médias en Amérique latine, par exemple. Argentine, Brésil, Chili, entre autres. Mmh. Voilà. Donc, parlant espagnol moi-même, j'essaie de me mettre en contact avec ces gens-là. Et si c'est possible le mois d'après, je veux dire, début juin, ça serait pas mal d'avoir une de ces associations intervenir. Sinon, j'ai aussi un autre intervenant potentiel pour le mois de juin. C'est un monsieur qui chapeaute le CDIM, c'est une organisation qui s'occupe de paranormal, de parapsychologie, qui s'appelle Serge Le Guyader, qui éventuellement avait manifesté l'intérêt de venir revenir sur Rouen, parce qu'il était venu l'année dernière, donc mmh. intervenir sur un thème. Et c'est à nous de décider de ce thème. Donc d'un mois sur l'autre, en fait, ça peut changer.
D'accord.
C'est vrai qu'il y a des mois où on sait dans les deux mois qui suivent qui va intervenir et quel est le thème. Et là, en ce moment, c'est plutôt décidé au dernier moment. Mmh. Voilà. La date est décidée au dernier moment et l'intervenant et le thème également.
D'accord.
Au moins quelques semaines à l'avance.
D'accord. Alors, j'avais une question qui s'est enfuie à Buenos Aires.
Ouais.
Non, mais alors donc, on parlait donc des intervenants. Mm-hmm. Est-ce que justement par ce réseau, puisqu'on peut dire un petit peu que cette association, les repas ufologiques, est une sorte de réseau, est-ce que vous pouvez piocher dans ce réseau des intervenants? Mm-hmm. Est-ce que vous voulez recommander les uns les autres?
Alors oui, ça c'est. Oui, on essaie effectivement de s'entraider entre organisateurs de repas.
Oui, vous n'êtes pas laissé. Bon, ben voilà, Rouen, il se débrouille, il monte ses conférences tout seul.
Oui, oui, voilà. Il y a beaucoup d'intervenants qui font plusieurs repas dans l'année. Ils font plusieurs villes, etc. Donc oui, tout à fait, on s'entraide. Mm-hmm. C'est pour ça que c'est une association et tout le monde se connaît. On fait une réunion en général via Skype du comité, enfin du bureau, des membres du bureau, et puis on fait un petit briefing, une réunion pour décider des choses à venir, etc. Voilà. Et tous les nouveaux venus et nouveaux arrivants, les nouveaux repas ont généralement un organisateur d'un autre repas qui est déjà rodé, qui vient l'aider.
Un petit coup de pouce. Quoi.
Voilà.
Mm-hmm. Mm-hmm, d'accord. Donc, vous êtes basé sur Rouen.
Oui.
Vous connaissez donc bien la région de Haute-Normandie.
Oui.
Au niveau témoignage, donc on en parlait, mm-hmm. abduction ou autre, est-ce que au niveau normand, il mm-hmm. y a quand même de quoi faire?
Oui, effectivement, il y a des cas assez notoires dans la région. J'ai découvert depuis un peu plus d'un an. Et c'est vrai qu'ils viennent régulièrement à mes repas et je suis allé enquêter sur place dans plusieurs cas, effectivement. Je ne vais pas du tout citer leur nom, mais
Non, bien sûr.
bon, leur prénom, Fabrice par exemple à Duclair, a régulièrement la visite d'objets volants au-dessus de sa maison, de phénomènes paranormaux. Et a également eu des temps manquants conséquents et a vécu des choses assez extraordinaires au niveau, on peut dire, enlèvement, oui.
D'accord. Oui, je crois, de mémoire, je crois que j'ai entendu son témoignage sur une autre radio.
Oui, il est passé plusieurs fois, oui, effectivement.
D'accord. Alors, est-ce que vous avez remarqué une sorte d'épicentre? Est-ce qu'il y a beaucoup de manifestations ovnis autour de la Haute-Normandie? Est-ce que il y a des endroits qui sont plus propices que d'autres?
Alors, je n'ai pas une carte des observations ou des enlèvements supposés de toute la France. Je sais qu'en Normandie, on en a quelques-uns. Donc, par rapport aux autres départements, je sais que dans le centre de la France, il y a des endroits où c'est assez conséquent. Et dans le sud, surtout, il y en a pas mal, hein, quand même. Voilà, du côté de la Dordogne, etc. Sud-ouest, sud-est, il y en a, c'est assez, je dirais qu'il y en a pas mal un peu partout, en fait, c'est selon les personnes qui vont aller de l'avant pour témoigner et trouver justement ces associations ou réseaux ufologues sur Internet, heureusement qu'il y a Internet d'ailleurs, et qui vont avoir le courage de témoigner pour ne pas être pris et ne pas être pris pour des idiots, quoi, pour des farfelus ou des illuminés, ce qui est souvent le cas s'ils vont à la gendarmerie de la région, de leur coin, ils vont prendre leur position, mais ne pas en faire grand-chose avec, quoi. Aussi, alors, souvent le témoin a peur de parler aux membres de sa famille, à ses amis ou à ses collègues de travail. Il y a très très peur d'être pris pour un fou, quoi. Donc, c'est ça le souci, c'est qu'on ne sait pas combien de personnes ont vu d'objets non conventionnels autour d'eux ou au-dessus d'eux. On ne sait pas combien ont la sensation d'avoir eu un temps manquant ou d'avoir été enlevé, même sans le savoir, consciemment. On ne le saura jamais, puisque il n'y a même pas 1% des gens qui font l'effort de trouver une association ou un groupe d'écoute ou de parole pour témoigner et ne pas être pris pour des illuminés.
Oui. Est-ce que vous
Donc.
pensez qu'il y a un petit souci au niveau de la communication? Parce qu'on n'est pas forcément au courant de ce qu'il peut y avoir pour nous aider quand on est dans cette situation-là?
Oui. Non, mais c'est un phénomène très français quand même, puisque on est quand même au pays du cartésianisme, et je dirais c'est la Corée du Nord du spirituel, quoi, du spiritualisme. On a peur
Excusez-nous,
d'être
il y a des
pris
dix
pour un
qui rigolent.
illuminé, pris pour un illuminé, dès qu'on parle de choses qui sont un petit peu hors du commun, quoi. On est tout de suite pris pour un fou ou un hérétique, quoi. On est dans le cartésianisme dogmatique au quotidien, et si on en sort, on est considéré comme un illuminé. Donc c'est un peu ça le souci en France, quoi. On a peur d'en parler autour de soi.
D'accord. Donc, oh zut, j'étais en train de. Non, parce que je pensais forcément à cette. Quand vous disiez dogme, c'est vrai qu'en France, enfin, je pense que la science impose quand même son dogme et à partir du moment où les choses ne rentrent pas dans le A plus B égale C, ça va plus quoi.
Oui, absolument. Et puis, il y a quelque chose qu'on peut appeler la dissonance cognitive qui, dès qu'on sort des sentiers battus et de ce qu'on nous rabâche avec nos médias, qui sont les vecteurs de la pensée unique dans laquelle on est formaté depuis tout petit, parce que vous remarquerez que sur toutes les chaînes d'information, que ce soit radio, je parle des infos, hein, on nous diffuse les mêmes choses,
Oui, tout à fait.
Les mêmes informations. Donc là, il y a quand même un courant de pensée unique et non pas varié. Un tour de magie dans les médias il n'y a pas longtemps. On était pendant une semaine au bord de la Troisième Guerre mondiale avec la Corée du Nord, et tout d'un coup, il y a eu les attentats de Boston, on n'en parle plus. Je ne sais pas si vous avez remarqué le tour de passe-passe et de magie des médias.
Mais
C'est
bon,
plus du
là.
tout un danger mondial pour la planète.
Ouais, non,
Comment
non.
tu l'as
Et là, on
Elle a
risquerait de
disparu des
dévier
infos.
sur un autre sujet.
Oui, elle a disparu des infos. Et le phénomène OVNI, lui, est un non-sujet, même si en ce moment, il y a eu le documentaire du docteur Greer qui est sorti, là,
Oui, j'allais vous en
Sirius.
parler.
Oui. Et également, un congrès sur la divulgation à Washington, D.C., qui va se tenir à partir du 29 avril, mais qui est mis en place par Stephen Bassett au National Press Club de Washington. Mais bon, j'ai pas énormément d'espoir, parce que tout ce qui est plus ou moins, je dirais, mis en place par des anciens employés du gouvernement américain, pour moi, ça ne sert que la cause des gouvernants. Même si on a quelques pointures qui y seront, c'est un petit peu un coup d'épée dans l'eau, comme ça s'est fait en France par le passé avec le rapport Cométin, la lettre du contre-amiral Pinon au président Sarkozy en 2008, et puis les efforts de la 3F, qui est une association aéronautique, qui essaye de promouvoir la divulgation. Mais, bon, ça, on pourra en reparler après.
Oui, on pourrait. En fait, vous me dites un petit peu que cette révélation fait un petit peu partie quand même du complot, entre guillemets.
Ça dépend de qui elle viendra, cette révélation. Si elle est orchestrée indirectement ou directement par les gouvernants, elle va servir la cause, l'agenda et les objectifs de ces gouvernants. Donc pour le peuple, à mon avis, ça va être négatif. Si elle vient du public, du grand public, donc des gens qui ont vu ou qui sont contactés ou enlevés, ça peut être plus positif. Bon, si elle vient des entités elles-mêmes, ça dépendra du type d'entité qui veulent se montrer au public. Mais à mon avis, les entités négatives cherchent plutôt à rester dans l'ombre. Donc si ça serait plutôt des entités positives à ce moment-là qui se révéleraient au grand public.
D'accord.
Voilà.
Alors,
Maintenant, ce n'est que mon opinion, hein. Chacun pense ce qu'il veut et je ne détiens aucune vérité et personne ne la détient non plus.
Oui, non, bien sûr. Après, tout dépend aussi de ses recherches et le courant qu'on suit.
Oui, tout à fait.
On a évoqué donc tout à l'heure Sirius. Donc, c'est, je rappelle pour nos auditeurs, Sirius, c'est un documentaire donc monté par le docteur Stephen Greer, si j'articule bien. Est-ce que vous avez eu l'occasion de le visionner? Moi, pour ma part, pas encore. Donc, je n'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. Mais bon, si vous l'avez déjà visionné, est-ce que vous en avez déjà. Qu'est-ce que vous pourriez déjà nous en dire?
Oui, je l'ai visionné, effectivement. Bon, je suis assez partagé. Les efforts qu'il prodigue pour vulgariser le sujet sur les phénomènes extraterrestres sont louables, c'est vrai. Lui, personnellement, son groupe, le projet de disclosure, le projet de divulgation, qui existe depuis longtemps. Bon, là, on voit bien dans le film qu'il se met vraiment beaucoup en avant, hein, donc. C'est un monsieur, je pense, qui a un ego assez conséquent, mais qui se présente un petit peu comme le sauveur, le révélateur
Oui, c'est
de
un peu
secrets
Monsieur
qui.
Muscle.
Oui, aussi, oui, avec des biceps. Non, faut pas être jaloux. Des biceps de Monsieur Grimm, mais c'est vrai qu'ils doivent passer beaucoup de temps dans les salles de muscu. Mais si vous voulez, ce qu'il révèle dans ce documentaire, pour les gens qui s'intéressent au phénomène OVNI et à l'hypothèse extraterrestre, ce sont un petit peu des secrets de Polichinelle, quoi. Mais au début, il révèle que les gouvernements nous cachent le phénomène pour garder la mainmise sur l'utilisation et la consommation des énergies polluantes, hein, le pétrole, le nucléaire, etc., et pour ne pas divulguer au grand public ces énergies libres avec lesquelles, sous lesquelles fonctionnent les engins volants de ces extraterrestres. Ça, je l'avais déjà dit sur de nombreuses interviews, et bon, tout le monde avait plus ou moins compris que l'étude de ces technologies permettrait de remplacer ces énergies polluantes qui pourrissent notre planète, là, qui sont évidemment nous maintiennent dans un état de chantage économique permanent.
Oui,
Et c'est
écrasant.
toujours la même excuse, c'est vous avez le droit, soit vous supprimez des millions. Alors, si on se met à utiliser des énergies libres, qui existent déjà depuis très longtemps, Nikola Tesla en a pointé du doigt et découvert quelques-unes, choses, et d'autres choses comme les projections d'ondes électromagnétiques qui sont utilisées à des fins militaires ou de modification de climat ou la géo-ingénierie, donc avec le projet ARP qui existe bien, c'est pas un fantasme. Il n'y a qu'à aller sur le site du projet ARP en Alaska, et les stations ARP existent un petit peu partout, hein, dans le globe, et les Américains ne sont pas les seuls à l'utiliser. Donc voilà, on a retenu que ça, alors qu'on pourrait retenir plein d'autres choses comme des énergies de propulsion libre. Mmh. Et donc c'est un enjeu économique en même temps. Donc ils pointent du doigt le cover-up, donc le complot de l'État américain, mais c'est vrai qu'ils se basent quand même pas mal sur les États-Unis, en essayant de dire au monde que les autres pays ont déclassifié le phénomène et ont révélé le phénomène, alors que c'est pas le cas chez nous. On en est loin, parce qu'on est très très noyauté et dirigé par ces lobbies pétroliers et nucléaires. Oui. Et ça, c'est pas demain la veille qu'on est prêt à révéler qu'il y a d'autres énergies possibles qui sont utilisables à grande échelle.
Oui, mais pourtant, c'est pas le seul à mettre le doigt sur ça, puisqu'il y a un autre documentaire, Thrive,
mais c'est lui, je crois, était aussi impliqué dans ce documentaire.
Oui,
absolument. Donc, mais bon, il y a plein de documentaires là-dessus. Après, il met en avant les petites cachotteries de la CIA concernant le phénomène OVNI, et puis également la créature OVNI qui a été retrouvée, vous savez, Atacama, l'humanoïde d'Atacama, qui est très petit, qui a réussi à vivre, je crois, jusqu'à 6 ans, dont les tests ADN ne sont pas encore finalisés. Donc il met ça en avant comme preuve qu'il existe des traces d'humanoïdes extraterrestres sur Terre. Mmh. Et il met aussi en avant son protocole d'initiation au contact, qui s'appelle le CE5. Il organise des groupes, une sorte de formation pour initier un contact, pour faire venir des entités extraterrestres en survol de la zone dans laquelle la méditation est pratiquée en groupe.
D'accord.
Voilà, donc il montre quelques vidéos infrarouges la nuit de lumière dans le ciel qui paraissent ressembler à des ovnis. Maintenant, on peut en être convaincu ou pas du tout. Il promeut beaucoup son protocole d'initiation de contact.
D'accord. Bien, merci beaucoup, voilà. Monsieur Gray.
Mm-hmm.
On a apprécié ce moment. Je vous laisse le plaisir quand même de redonner vos adresses et vos coordonnées pour les repas ufologiques de Rouen.
D'accord. Alors mes coordonnées, donc vous pouvez me joindre si vous voulez participer à un repas, en curieux ou passionné, ou même observateur ou experiencer, donc une personne qui a peut-être vécu des choses fortes en rapport avec ce phénomène. Vous pouvez m'appeler au 06 83 03 68 94 ou m'envoyer un email à plavigne 767 plavigne 767@mail.fr, ou vous pouvez nous retrouver sur le site des repas, lesrepasufologiques.com, lesrepasufologiques.com, et vous cliquez sur la ville de Rouen. Voilà, tout simplement.
Ben merci beaucoup. Je finis quand même pour dire que votre repas ufologique du 4 mai sera en même temps que l'opération Suricate. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette opération.
Oui, par le passé, j'y avais participé il y a un peu plus d'un an, c'est une veillée en fait, veillée sur toute la France, et les gens partagent ce qu'ils voient dans le ciel au même moment.
C'est sûr que c'est plus là. Plus on a de yeux, mieux c'est.
Voilà, exactement. Et oui, avec un télescope infrarouge, c'est encore mieux.
Ah, oui, bon, on peut voir aussi en avoir sous le coude.
Oui, voilà, oui. Des jumelles infrarouges.
En tout cas, on vous remercie beaucoup, Monsieur Gray. On espère pouvoir vous compter parmi nous pour les prochaines spéciales ufologie, puisque vous avez un avis très très pas tranché, mais bon, vous avez un bon avis au niveau de tout ce qui est ufologie. Donc, ce serait vraiment avec plaisir qu'on puisse vous revoir avec nous. Je
D'accord.
vous souhaite
Moi de même.
tout plein de bonnes choses pour les repas ufologiques.
Merci.
Et puis bah, bonne soirée.
Et bonne chance avec votre émission également. Et je ferai un plaisir d'en parler autour de moi également.
C'est très gentil. Merci beaucoup.
Merci, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.